Parlons maintenant d'abord de l'entrée en vigueur avec les dents du passeport vaccinal, donc les amendes qui sont prévues, c'est aujourd'hui, resto, gym, spectacle. Donc, on devra présenter le code QR et aussi une preuve d'identité avec photo. Entre-temps, on se rend compte que le nombre de cas augmente, nombre de cas dans les écoles. Heureusement, Québec s'est enfin décidé à déployer les tests rapides. Donc, c'est le patron de la vaccination qui va s'en occuper, ce qui est une maudite bonne nouvelle. La rumeur veut qu'on teste une classe une fois par jour. Est-ce que ça va être ça? On verra. Puis peut-être dans certains cas, c'est moins essentiel. Mais autrement dit, on a enfin décidé de vider les entrepôts alors qu'on était avec des stocks. Et ça, c'est la santé publique là, qui retardait ça de beaucoup. Premier constat. Deuxième constat, il y a des cas à l'hôpital. Les gens qui y sont sont plus jeunes, on le sait. Et ce sont des gens qui sont non vaccinés pour la grande majorité. Et je voyais des cas de moins de 50 ans qui sont plus nombreux. Retour COVID aussi dans certaines résidences pour personnes âgées. Puis on connaît tous le principe. C'est des gens qui disent « Ouais, mais c'est quoi votre problème avec les non-vaccinés? Même si c'est assis à côté de moi. » Puis bon, m'a répété une vérité du Dr Weiss, là, mais en gros, là, le vaccin, c'est pas 100% de protection. Le vaccin vient, on le souhaite, atténuer les effets de la COVID. Et sans la vaccination, puis on le voit, les chiffres sont, me semble, assez clairs. Même Éric Duhem reconnaît que les chiffres ont l'air de montrer que le vaccin fonctionne. Alors, ça, c'est le premier. Maintenant, les gens non vaccinés ont une charge virale plus importante. J'ai pas envie d'être assis à côté de quelqu'un qui a une charge virale plus importante, même si je suis double vacciné. Puis pensez ce que vous voulez, mais je pense que c'est l'opinion de la majorité des gens, de la très grande majorité. Et c'est pour ça qu'il y a ce passeport vaccinal. Parlons maintenant de l'impact sur le réseau de la santé. J'en fais presque une obsession des patients non-COVID. Hier, Christian Dubé a dit qu'on ne sera pas dans la cible pour ce qui est du plan de rattrapage. On le sait, il y a toujours une liste d'attente au Québec. Elle s'est allongée durant la période de la pandémie. On a fait des ententes avec des cliniques privées. Sauf que, bien là, ça recommence. Et je voyais ce matin Radio-Canada qui parlait de l'utilisation des salles. Tu prends un hôpital, c'est 3 salles sur 5. Parfois, c'est 3 jours semaine. Les médecins veulent opérer, mais il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas le personnel. Puis là, avec la vaccination obligatoire, bien, on s'attend à ce que des gens également quittent le réseau. Dr Serge Legault est le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dr Legault, bonjour.
Bonjour, Serge.
Commençons par un peu le portrait terrain, là. On est 15 septembre. Depuis 2-3 semaines, là, comment ça se passe, les activités chirurgicales au Québec? Est-ce que c'est au ralenti? C'est une vitesse de croisière? C'est quoi le portrait?
Ben, c'est au ralenti, c'est certain. Il y a eu une période durant l'été, avant l'arrivée de la quatrième vague, où une grande majorité des équipes chirurgicales travaillaient à un niveau quand même très acceptable. Si on compare, parce que là, c'était l'été, hein, c'est la période estivale, donc historiquement, il y a beaucoup de salles d'opération qui ferment à cause des vacances du personnel. Mais dans certains hôpitaux, l'activité a été rehaussée à plus de 100%, évidemment avec l'aide des cliniques médicales spécialisées. Là, ce qui se passe présentement avec la quatrième vague, c'est que là, il y a encore du personnel qui est manquant. Vraiment, là, la façon que M. Dubé décrivait ça hier, c'est-à-dire un manque criant, là, c'est vraiment ça. Là, 4000 infirmières, c'est tout un trou dans le système de santé. Donc, même les projections, je vous donne un exemple, à mon hôpital, on croyait réouvrir à 11 salles au début septembre. Malheureusement, on est à 10 salles, puis peut-être qu'on va être à 9 salles avec l'évolution là, de la pandémie, puis okay, des absences.
Quand vous me dites 9 salles, là, c'est 5 jours par semaine?
Oui, c'est 5 jours par semaine.
OK, mais la salle ferme à 4 heures, c'est ça?
Oui, la salle ferme à 4 heures. Il y a des centres qui sont plus affectés que d'autres, mais c'est ça. On n'est pas à un niveau où on s'attendait à être. Puis je parle pour Cité de la Santé de Laval, mais je regarde les chiffres partout au Québec, puis les chiffres confirment que l'activité n'est pas au rendez-vous tel que prévu.
Quand on parle de délestage, là, puis je veux que ce soit le plus clair possible pour les auditeurs, là, c'est quel type de chirurgie? Là? Les patients qui écoutent ce matin, là, qui ont tel problème, là, doivent s'attendre à attendre encore plus. Là. On parle de qui? Là? Des opérations aux genoux, les cataractes. Qu'est-ce qui va être repoussé en premier?
Bon, ça, c'est la question à laquelle j'aime beaucoup répondre, là. Deux choses, monsieur Arcan. La première chose, c'est qu'avec le déploiement de plusieurs cliniques médicales spécialisées, il y a beaucoup de patients qui cotaient pour ce qu'on appelle la chirurgie d'un jour qui ont pu être faits dans ces cliniques médicales spécialisées-là. Je parle de l'orthopédie mineure, je parle de la cataracte. Il y a beaucoup, beaucoup de cataractes qui se font dans les CMS. Ces patients-là ont eu la chance d'être opérés. Et si on priorise les patients par ordre, par importance du diagnostic, c'est sûr que si on arrive dans une situation où est-ce qu'il faut absolument opérer les patients les plus malades, ben ça va être les victimes de la première, puis de la deuxième, puis de la troisième vague qui vont encore être victimes du délestage. Donc, des patients qui, malheureusement, même s'ils attendent depuis longtemps, vont être obligés d'attendre encore plus. Parce que si j'ai le choix comme gestionnaire du bloc opératoire d'opérer un patient qui a un cancer versus un patient qui a une maladie bénigne, je vais opérer le cancer tout le temps, peu importe le nombre de la vague qu'on subit. Alors, c'est une réponse déprimante pour les patients qui attendent, mais c'est la réponse honnête à la question que vous me posez.
L'autre question. Je comprends qu'il manque 4000 infirmières. Y a-tu moyen de regarder des scénarios, parce qu'on ne va pas les ramener les 4000, là, puis tu sais, j'essaie d'être le plus pratique possible. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être assignés à des blocs opératoires? Ils n'ont peut-être pas la formation, la spécialité, ils n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut, mais ça pourrait permettre peut-être de rouler dans le cas de certaines chirurgies. Je ne sais pas, moi, je suis pas chirurgien. Êtes-vous capable de travailler avec des infirmières auxiliaires ou ça vous prend vraiment du monde très spécialisé?
Ben, c'est une question délicate à répondre, mais je vous dirai ceci, M. Arcan. L'introduction des infirmières auxiliaires dans un bloc opératoire normal, ça fait plus que 10 ans que ça se fait. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de résistance au début de la part des infirmières qui avaient une formation traditionnelle d'infirmière versus les infirmières auxiliaires dont la formation est différente, à accepter, si vous voulez, de faire partie du groupe d'infirmières qui travaillent au bloc opératoire. Mais je vous dirais que la très, 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 très grande majorité des hôpitaux qui ont tenté l'expérience, ça s'est fait de façon tout à fait correcte. Et puis, présentement, je vous donne l'exemple, au CHUM, il y a à peu près 30% du workforce des infirmières de salle d'opération qui sont des infirmières auxiliaires. On dirait, bon, les infirmières auxiliaires ont une formation moindre, ils peuvent pas faire de choses très spécialisées. Au CHUM, là, on conviendra là, que c'est pas des chirurgies ordinaires qui se fait là, c'est des chirurgies tertiaires, quaternaires. Donc, ces infirmières-là peuvent venir rehausser le groupe d'infirmières qui travaillent au bloc opératoire. C'est indéniable que c'est une façon de faire. Partout au Canada, il y a une catégorie d'emploi qui s'appelle les scrub nurses, les instrumentistes. Les infirmières auxiliaires sont un peu plus que des instrumentistes là où ils travaillent au bloc opératoire, mais c'est une façon de voir le problème pour intégrer ces gens-là aux infirmières qui nous aident pendant l'opération.
OK. Docteur Legault, une question sur les urgences. Le ministre Dubé hier parlait de revoir l'offre de services, puis on a vu des cas de salles d'urgence fermées à l'extérieur de Montréal. C'est quoi le portrait des urgences?
Ben, c'est pas très, très réjouissant. Je vous dirais, là, grosso modo, là, à peu près 10 000 patients se présentent aux urgences à tous les jours au Québec. De ces 10 000-là, à cause de l'attente interminable, il y en a entre 1 000 et 1 300 qui retournent chez eux. C'est phénoménal, là. OK? Bon, pourquoi? Parce que pour que l'urgence se vide, il faut que l'étage puisse être capable de recevoir des patients. Et si l'étage est pris avec des cas de COVID, c'est très difficile que l'urgence se vide. Ça crée de la promiscuité entre les patients, ça crée des civières dans les corridors, ça augmente le risque de contamination entre les patients et les soignants. C'est pas jojo, le portrait aux urgences. Ce qui est le plus inquiétant de toute cette situation-là, c'est que là où on pense de fermer, c'est-à-dire sanitaire en Abitibi, Port-Cartier, sur la Côte-Nord, il n'y en a pas de cas de COVID, là. Il y a un manque de personnel parce que les gens sont épuisés.
Mais quand on dit fermer une salle d'urgence, là, il arrive quoi quand un patient a besoin d'aller à l'urgence à Port-Cartier?
Ben, Ce que je trouve très responsable de la part du ministre, c'est de l'annoncer de façon prospective, c'est-à-dire on croit qu'on va pouvoir, on va devoir fermer, exemple, 8 heures de temps durant la nuit parce qu'il n'y a pas de personnel. Il y a une ambulance qui est parquée à l'urgence puis qui va recevoir les patients qui ne sont pas ambulatoires, qui doivent absolument avoir des soins, puis là, l'ambulance va partir vers cette île. Puis c'est la même chose à Sainte-Terre. Donc, il y a un plan de contingence qui se met en place. L'urgence est fermée, mais les patients vont quand même recevoir un premier triage où ils vont pouvoir être réorientés ailleurs. D'avertir la population à l'avance, c'est beaucoup mieux que de dire, on fait un communiqué en disant, ben, dans 3 heures, l'urgence ferme, débrouillez-vous. Alors, c'est correct de venir voir le problème. En Outaouais, il y a un gros problème avec les urgences à les Gatineau. La population était au courant, puis ça s'est relativement bien passé. Alors, si les gens sont capables d'être mis au courant à l'avance, ben ça leur permet de réagir.
Ils seront malades plus tard.
Ben, ils seront pas malades plus tard, mais ils vont avoir une solution qui n'est pas la solution idéale, on se comprend.
C'est sûr. Merci, Dr. Legault. Bonne journée.
Allez.
Au revoir. Dr. Serge Legault est le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. On va aller retrouver Marc. Là, on était dans le réseau de la santé. Maintenant, c'est le réseau routier et à Laval, le cauchemar.